invité, une playlist, un mercredi soir sur deux, 20h-21h, Tour de Piste est sur Principe Actif.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il n'était pas encore né dans les années 80, mais pourtant sa musique rappelle celle des icônes de ma jeunesse. Quelque part entre Étienne Daho et Dombrance, en passant par les Talking Heads, Bertrand Belin et bien d'autres, sa chanson électro, comme il se plaît à la qualifier, porte des textes à l'aspect léger mais qui s'interroge sur le monde qui l'entoure. Léo Vauquelin est au micro de l'émission Tour de Piste ce soir en direct et jusqu'à 21h. L'occasion pour moi, pour nous de revenir sur son parcours, de lui confier les clés de la programmation et d'écouter quelques extraits de son album Canal 1, paru le 20 octobre de cette année. Un disque 6 titres, gorgé de références, qui dévoile un univers singulier en dialogue avec son époque. Bonsoir Léo.
Salut Laurent.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Nos échanges vont s'ouvrir avec une question sur ton bagage musical. Des disques qui tournaient à la maison quand tu étais encore enfant, lesquels t'ont le plus marqué et ont le plus influencé ton style?
Et bah, la chose la plus évidente, je pense que c'est Mathieu Chédid avec son album Je DM et compagnie, là. Monde virtuel. Parce que c'est un artiste que j'ai voulu copier. Et je vais pas avancer trop parce que j'ai vu la prochaine question, mais il se pourrait qu'il ait beaucoup influencé, en tout cas, ma volonté de pratiquer quelconque instrument. Et en tout cas, à la maison, il y avait beaucoup de choses qui se... On écoutait beaucoup de choses, que ce soit par le biais de mes parents ou de mon frère, et de ma sœur également, mais elle qui est plus dans le lyrique, donc rien à voir, mais voilà. Ça permet une curiosité, enfin ça permet de découvrir des choses, quoi. Mais du côté de mon frère, j'ai eu la chance de que lui me fasse découvrir plutôt le côté French Touch, années 90, Daft Punk et surtout Justice notamment, qui dès la première fois que j'ai écouté ça, je me suis dit, mais ouah, qu'est-ce que c'est que ce son de Barjo?
Ouais. Alors t'as grandi à Tilleul-Auton, alors une petite commune de l'Eure de 300 habitants. Ça a pesé dans le fait que tu sois artiste et que tu as eu envie de créer?
Ouais, je pense que au bout d'un moment, quand tu as beaucoup trop de fois joué sur la place du village au foot, tu te dis que tu pourrais faire autre chose avec tes membres. Et en l'occurrence, pourquoi pas utiliser ses bras et développer la pratique instrumentale. Donc ouais, carrément. Surtout que j'avais la chance de... dans mon village, d'avoir déjà des copains qui étaient intéressés aussi par la musique, mais aussi par le foot à la base. Mais... Donc voilà, j'ai pu grandir avec eux et orienter cette curiosité avec eux.
Et alors, tu as commencé à apprendre à jouer de la guitare assez tôt, à l'âge de 8 ans, 8-9 ans à peu près. Ça a été quoi le déclic de s'y mettre?
Bah justement, ouais, c'est le fameux Mathieu Chédid que j'ai totalement imité de la tête aux pieds, donc de la coupe au doigt, espérons. Mais non, j'ai jamais eu ce niveau-là, mais en tout cas, oui, par passion, j'ai voulu me mettre à la guitare et à la compo par le biais de Mathieu Chédid, ouais, que j'aimais beaucoup.
Et on va ouvrir la programmation, ta programmation avec le regretté Auvergnat Jean-Louis Murat. Le titre « J'ai fréquenté la beauté », c'est un titre qui est extrait de l'album Babel qui était sorti en 2014. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur Murat, son univers et...
C'est des choses que j'ai... En fait, surtout ce titre-là, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que quand je l'ai réécouté vers mes 18 ans, à ma majorité, quoi, ça m'a tout de suite replongé en arrière et j'ai compris pourquoi mes parents l'écoutaient à l'époque. Donc pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust, ce morceau, et globalement, cet artiste-là. Donc voilà, j'adore.
Fréquenter la beauté tout le mois de juillet, pauvre cœur, je manquais d'amour. J'ai fréquenté la beauté chaque jour abreuvé à l'illusion des toujours. L'amour qui s'est dévoué, qui nous jette au panier, pleurniche en route de la tour. L'amour qui sait nous tromper, jamais sûr d'être aimé par les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la beauté, je n'en ai rien gardé. Fréquenter la santé, chaque matin le lait, cœur humide, je n'aurai l'amour. J'ai j'ai fréquenté la santé, par les champs, les forêts, partout où me menait le jour. Derrière le ballon forêt, mis parmi les genêts, je suivais la cave à l'amour. J'ai fréquenté la santé, les éboires y mangeaient pour les rondelles des faubourgs. J'ai fréquenté la santé, je n'en ai rien gardé. Tout un mois de janvier, nuit et jour, il neigeait autour. J'ai fréquenté la beauté sur la baie, à l'enchaînement des toujours. Au luxe qui garde le corps, sans regret, sans remords, sous la cascade qu'elle adore. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'ai rien gardé de l'hirondelle du faubourg. J'ai fréquenté la gaieté, mais je n'en ai rien gardé.
J'ai fréquenté la beauté de l'Auvergnat Jean-Louis Murat, premier choix de mon invité de ce soir, Léo Vauquelin. Alors Jean-Louis Murat était un personnage solitaire et introverti. Toi tu aimes être un homme de l'ombre. Comment t'as géré le fait d'être sur le devant de la scène en tant que chanteur, une fonction qui nécessite d'être plutôt extraverti, même si pour le coup Murat c'est un des contre-exemples de ça.
Je pense que je prends plaisir grâce à la création du personnage. J'ai créé un personnage en tout cas dans lequel je me réfugie, et par ce biais-là je prends du plaisir, parce que effectivement si je devais être totalement moi sans filtre avec les gens, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal et j'aurais encore plus l'impression d'être tout nu quoi sur scène. Mais j'aime bien ce jeu-là avec le public, et d'aller les chercher, d'aller les embêter, et même de jouer du silence, enfin de profiter de leurs attentes pour provoquer des situations qui peuvent paraître longues pour mieux relancer la chose derrière. J'ai pris goût à cette position là en tout cas, ouais.
Alors du coup Léo Vauquelin, c'est quelqu'un d'introverti ou d'extraverti?
Mais j'en avais parlé avec David Chapelle, que certains doivent connaître ici. Je crois que j'ai un aspect un peu schizophrénique là-dessus, et que je sais pas encore, je peux vraiment être les deux. Et j'ai pas encore déterminé ce pourquoi des fois je peux être hyper introverti comme hyper extraverti. Donc je sais pas trop, ouais.
Il a fallu que tu te fasses violence pour monter sur scène en tant que chanteur? Ou c'est quelque chose qui s'est fait naturellement?
Non, c'est plutôt naturel ce côté-là. C'est plus dans la vie, je disais ça, dans la vie privée, où je peux avoir des aspects hyper introvertis, je ne les comprends pas encore. Mais non, le côté scénique, c'est une extension de nous-mêmes, on s'en fiche un peu, il ne faut pas... Et puis c'est un peu le mot d'ordre de cette EP-là, il n'y a pas de prétention... Dans ma musique, j'essaye de la faire bien et pour m'amuser, quoi, surtout.
Et alors, t'as fait 3 mois au conservatoire de musique. Alors, c'est une expérience, c'est une fulgurance. Cette expérience, ça t'a servi pour la suite ou pas du tout?
Sur le solfège, je regrette un peu, forcément, parce que c'est un peu utile. C'est pas un peu utile, c'est forcément utile. Donc, je regrette un peu de pas avoir poussé ce truc-là. Après, les cours de guitare, donc à l'époque, j'essayais d'apprendre cet instrument-là. Je regrette pas d'avoir arrêté, puisque en fait, on faisait la même chose que je pouvais faire chez moi grâce à des livres tuto ou YouTube, parce que je suis de cette génération-là, quelle chance. Donc, c'est-à-dire apprendre des morceaux avec ton prof, je pouvais le faire tout seul chez moi. Donc, sur l'apprentissage de l'instrument, non, je regrette pas de m'être fait confiance. Et voilà.
Et c'est pas trop difficile de s'imposer une discipline quand on travaille seul?
Non, peut-être que c'est comme tu disais, un des échappatoires quand tu vis au Tiloton, 300 habitants, donc je sais pas, ouais. Non, j'ai vraiment pris ça comme une drogue, je sais pas, ouais. Je me suis pas posé cette question-là, en tout cas, j'ai fait ça à fond depuis le début.
Qu'est-ce que tu as gardé de tes expériences précédentes avant la sortie de Canal 1, et qu'est-ce que tu as mis de côté?
Alors, ce que j'ai mis de côté, on commence par ça. Depuis ma majorité, je suis retourné du coup vers la chanson française. Ce que j'ai mis de côté, c'est l'aspect trop chanson, malgré que je chante en français, parce que j'ai pas apprécié défendre ça sur scène et ce que ça a renvoyé chez les gens, d'arriver avec sa guitare et de parler d'amour et de je ne sais quoi, tout en français, en étant hyper transparent sur les mots choisis aussi. Il y a une réflexion un peu là-dessus sur jouer davantage de la double lecture des mots, et puis même aussi une musique peut être entraînante tout en parlant d'un truc hyper, hyper noir. Donc ouais, ce qui a changé, c'était vachement ça, surtout, sur éviter d'être trop frontal du fait que tout le monde comprend ce que je dis. donc voilà, d'essayer d'amener ailleurs le projet.
Et je pense à Zao de Zagazan, quand tu me parles de ça, qui est une fan de chansons françaises. On peut citer Jacques Brel parmi ses influences. Et en même temps, les dispositifs électroniques qu'elle utilise, qui rendent sa musique pop et électro et très noire, ça lui permet aussi d'être en phase avec son époque au niveau des instruments. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est vrai aussi pour toi?
Ouais, il y a un peu de ça. Et au passage, Zao de Zagazan a été un des derniers concerts les plus marquants. Les plus marquants parce qu'elle est vraiment impressionnante sur scène, et puis ses musiciens le sont aussi. Après, j'utilise des sonorités électroniques qui sont plus ou moins dans l'air du temps, mais je me suis plus orienté vers des clins d'œil, quelque chose de très référencé, je pense, au moins sur la majorité des titres de cette EP. En l'occurrence, des hyper référencés 80, et elle est, selon moi, plus dans une approche moderne, pop moderne, quoi. Et donc, oui, ça fait partie de mes influences, mais on n'est pas tout à fait raccord, je pense.
On va poursuivre avec le deuxième titre de ta sélection, c'est les Talking Heads. Le titre s'appelle Burning Down the House, une version remasterisée de 2005. Le groupe, lui, pourtant, est né au mi-temps des années 70. Là encore, je te laisse nous dire quelques mots, nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas les Talking Heads, ce groupe, brièvement, et puis ce titre, et pourquoi tu l'as choisi.
Eh bien, parce que David Byrne, c'est surtout que mes parents sont pas du tout croyants, mais par contre mon père croit en un seul type, et c'est ce gars-là, c'est David Byrne. Donc toute ma jeunesse, on m'a ressassé ce nom-là, oh, t'es relou, c'est chiant ton truc.
Ça a été un rejet d'abord, David Byrne, non, la manière dont on te l'a imposé.
Peut-être pas un rejet parce que le mot est fort, mais du coup, quand c'est aussi insistant, tu te dis, bon, c'est bon, on a compris, ça a l'air cool, mais ça gâche un peu le plaisir.
Ça gâche le plaisir, ouais.
Puis je pense qu'il faut une certaine maturité pour comprendre ce qu'ils ont pu apporter dans la musique, et puis ce qui se passe en live, quoi, c'est totalement fou. Donc voilà, Talking Heads, c'est un souvenir de famille, et puis aussi une grosse inspiration sur l'énergie que c'est sur scène, sur sa Big Suite, par exemple, son grand costard taillé beaucoup trop large, qui peut être une inspiration, mais ouais. David Byrne, cool, cool, quoi. Il est cool, ce gars.
Well,
Et vous êtes nombreuses et nombreux sans doute ce soir à avoir reconnu le groupe new-yorkais les Talking Heads avec le titre Burning Down the House. Le deuxième choix de mon invité Léo Vauquelin ce soir dans l'émission Tour de Piste. Alors Léo, c'est un des rares groupes étrangers de ta sélection de ce soir. Il y en a quand même deux autres, mais ta programmation étant constituée quasi exclusivement d'artistes français. Est-ce qu'il y a un savoir-faire français de la pop pour toi ? Est-ce que la pop française, on va appeler ça comme ça, a un charme particulier qui te touche ?
En tout cas, la nouvelle vague d'artistes français qui éclot là depuis, je sais pas, je dirais 5-6 ans. Donc j'inclus Flavien Berger et compagnie. Je trouve qu'il y a un truc qui se passe, ouais, ou en tout cas ça fait de très belles références à ce qui se faisait avant. Après, est-ce que je pense que à présent j'écoute vachement de pop française parce que j'ai la volonté de faire de la pop française et jusque là j'avais pas trop cherché à la comprendre. Donc je sais pas si on a le français, le petit côté charmeur quoi. Je pense que ça se ressent aussi dans la musique. Que ça soit de Gainsbourg à même Tellier pour prendre deux antipodes, quoi, de trucs qui n'ont rien à voir. Je pense que oui, on a quand même un savoir-faire. Mais je sais pas, j'irai pas plus loin dans cette réponse.
Ouais, c'est pas obligé d'aller plus loin. Alors, les Talking Heads se sont formés au mi-temps des années 70. Est-ce qu'on peut être nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue ? Enfin, est-ce que la musique, elle permet ça ?
Ah bah ouais. Et puis je crois que je souffre de cette nostalgie-là carrément, ouais, parce que on est quand même dans une époque chelou si on enlève juste l'aspect sociétal, hein. Si on fait abstraction de ça, on est quand même dans une drôle d'époque. Et puis on est avec l'ère du streaming. Enfin, il y a tellement de choses qui sont certes cool parce qu'il y a démocratisation de tous les artistes, enfin de la musique tout court, tout le monde peut pratiquer la musique, mais du coup il y a tellement de monde sur ce marché-là maintenant que ça devient vraiment
un marché encore plus concurrentiel qu'avant.
Ouais, carrément, ouais. Et puis est-ce que, pour faire le pont avec la société actuelle, est-ce que les auditeurs ont besoin d'entendre des paroles au sujet de ce qui nous entoure et qui part un peu en cacahuète, ou est-ce qu'on fait abstraction de ça et on incite les auditeurs à faire la fête, je sais pas.
Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps?
Ouais, bah j'espère. J'espère, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu moins, ou sinon c'est que je suis déjà vieux à mes 26 ans, mais non. C'est moins spontané qu'à une certaine époque du fait que maintenant tout est à disposition et qu'il n'y ait plus de grandes évolutions techniques, au moins dans la composition, enfin dans la manière de composer en tout cas. On commence à stagner là.
Et on va écouter un artiste contemporain que tu adores, Dombrance, le titre s'appelle Raffarin.
Et bah Dombrance, je suis amoureux de lui depuis bien longtemps déjà. Non mais il avait son premier groupe qui était DBFC, enfin même si Dombrance je crois est plus vieux que DBFC, mais pour ceux qui connaissent, DBFC c'est un mélange de rock et de machines électroniques quoi. Et donc je l'avais découvert déjà à cette époque-là et c'était déjà un grand coup de cœur, mais quand il est revenu avec son projet Dombrance autour de ses personnalités politiques, j'ai vraiment pris mon pied et ça a pris tout son sens quoi. Il est vraiment très fort, je l'admire beaucoup.
Thank you.
le titre Raffarin de l'artiste bordelais Dombrand, c'est sorti en 2021, il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, c'est à la fois très moderne, mon cher Léo, et en même temps très référencé. Donc ça fait partie des points communs que tu peux avoir avec lui. Dombrand, il est aussi compositeur, producteur de musique électronique et guitariste, et il affiche comme toi... sur scène en tout cas un look volontairement has-been sorti tout droit des années 80. Il est né comment et qu'est-ce qu'il exprime ce personnage has-been que tu t'es inventé, que tu campes sur la pochette de l'album et puis sur scène?
Je pense qu'on revient à une des questions précédentes, ouais. Plus ou moins, c'est que j'avais besoin de, surtout là sous mon vrai nom, sous Léo Vauquelin, j'étais obligé de trouver un refuge. Et donc ce personnage là me permet de développer tout un univers et un champ lexical tant dans les clips que en live, pardon, puisque du coup dans ce personnage là est en réalité un présentateur télévision des années 80, donc à l'ère des télés cathodiques et des studios qui sentent la cigarette. Donc c'était surtout il est né de cette volonté là de créer un univers, d'aller plus loin que la musique, de mettre des images sur de la musique, puisque ce personnage-là, moustachu, est aussi référencé que les synthétiseurs utilisés, je pense. Donc voilà, j'ai essayé de faire une connexion entre mes références, où je voulais aller, et puis mon personnage, quoi.
T'es passé par quel cursus universitaire? Je pose pas la question par hasard. Hein.
Ouais.
Je pense que
un délicieux BTS communication.
Et alors, qu'est-ce qui t'en reste en tant qu'artiste? Est-ce que ça influe, ça a une influence sur ton parcours d'artiste, ça?
Oui, je pense, parce que j'ai même dans l'esthétique des clips et tout ça, j'ai cette volonté-là de faire des choses assez léchées, assez propres à la pub. Hein, c'est pas pour s'auto-jeter des fleurs, mais la pub est très aseptisée. Faut pas que ça déborde. Tout est millimétré, et c'est un des seuls aspects que j'aime de la pub. Après, toutes les réunions qui en découlent pour dire que ce stylo bleu sera choisi. Enfin, j'ai raté ma blague, mais il y a tellement de brainstorming, ouais, et de stratégie marketing.
Ouais, la stratégie marketing, que tu abordes avec beaucoup d'ironie sur la pochette de ce disque. Alors, tu as joué en groupe, entre autres, avec The Laughing Cows. Comment est venue l'envie de travailler seul?
Eh bien, je crois que l'envie n'est pas venue toute seule, c'est juste qu'il a fallu se renouveler en quelque sorte, puisque les copains partaient eux aussi en études, et puis au bout d'un moment, comme on peut l'entendre à droite à gauche, il faut faire un vrai métier, puisque la musique n'est pas un vrai métier. Et donc du coup, c'était un peu la fin de ces vaches qui rient là, des Laughing Cows. Et donc du coup, j'ai dû inventer, et puis inventer quelque chose de nouveau pour moi, qui était composer tout seul et faire de la musique sur ordinateur. Et donc voilà.
Et qu'est-ce que ça offre, le fait de travailler seul, et de quoi ça prive par rapport à une expérience en groupe?
C'est beaucoup moins spontané, je pense, dans le commencement de la pratique. Puisqu'on n'a pas l'énergie commune, l'osmose, quoi, des 4 cerveaux qui fonctionnent ensemble et qui établissent des choix, du coup, pour dire, bon, ben ça, Michel, ton riff de guitare est nul, on va trouver un autre truc. Et donc, du coup, quand t'es tout seul, tu te prends la tête vraiment, c'est une question de légitimité, en fait, quand t'es tout seul le parcours pour arriver à dire que ton morceau est cool, je pense qu'il faut beaucoup de travail dans son coin et en dehors des oreilles des potentiels auditeurs. Enfin, il y a un travail sous-marin à faire, en tout cas, avant de le présenter. C'est beaucoup moins spontané qu'un travail de groupe, quoi.
On va poursuivre avec le premier titre extrait de cet album Canal 1, ça s'appelle « Ne pas rester ». Il est arrivé comment, ce titre, Ne pas rester? Si tu peux nous en parler un petit peu, brièvement.
Mais c'est arrivé assez vite, puisque les premières notes de basse que vous allez entendre ont fait découler tout le reste du morceau, quoi. Donc c'est très cool quand ça se passe comme ça, les compositions, quand tout vient, ok, tu trouves un premier gimmick et tout se met en place assez naturellement. Ouais. Et donc, ouais, celui-ci s'est fait assez naturellement. Et puis, il y avait déjà un côté un peu chaloupé par ce riff de basse qui nous a emmené, enfin, qui m'a emmené vers une écriture de, d'invitation au lâcher prise et au voyage et de dire bon, allez, vas-y, on fait la fête sur ce titre un peu, on essaie.
Premier extrait d'un des 6 titres qui composent le petit album de Léo Vauquelin sorti le 20 octobre, ça s'appelle Ne pas rester. Léo Vauquelin est en face de moi dans les studios de la radio de Principe Actif dans l'émission Tour de Piste. Tu t'es d'abord appelé Pollux. Quel changement de cap marque la transition entre Pollux et Léo Vauquelin?
Pollux, du coup, je pense que c'est la volonté de faire un projet seul. Et Léo Vauquelin, c'est la volonté d'utiliser des machines dont on connaît l'histoire, plus ou moins, quoi. Donc il y a un travail de, encore une fois, de légitimité sur l'utilisation de certains, enfin des synthétiseurs. Et si tu utilises des synthétiseurs comme une sitar ou des trucs hyper précis, je pense que c'est un peu obligé de connaître leur histoire. Et donc la différence, une des premières différences entre Pollux et Léo Vauquelin, ça serait ça. La naïveté sous Pollux de composer des choses sans même trop savoir ce que c'était et sans même trop savoir où ça pouvait aller. Donc il y a eu ce travail-là, je pense, de référencement du son et du personnage, du coup, aussi au passage, puisque bizarrement, je pense que j'étais beaucoup plus le Léo Vauquelin de la vie de tous les jours dans Pollux que... le Léo Vauquelin de la vie de tous les jours dans... Enfin, je suis beaucoup moins moi-même maintenant que je...
Sous ton vrai nom, sous mon vrai nom, ton pseudonyme.
Merci de venir à ma rescousse.
se cacher, ça permet de se montrer finalement.
Bah ouais, c'est contradictoire, mais pourquoi pas.
Alors, t'as été accompagné par le 106, hein, c'est la SMAC de Rouen où t'as rencontré Laurent Collat, qui en plus d'avoir un très joli prénom est un pionnier de la musique électronique hexagonale. Tu pourrais nous présenter brièvement et puis nous dire ce qu'il a apporté à ce projet, à ton parcours d'artiste.
Justement, Laurent, c'est la... il m'a mis une claque, quoi, en fait, puisqu'il a arrangé les premiers morceaux de la transition Pollux vers Léo Vauquelin, donc il y a déjà 3-4 ans. Et donc, du coup, je suis allé dans son studio et puis j'ai appris beaucoup de lui, même si j'ai dû apprendre 3% de... même pas 3% de tout ce qu'il peut savoir. Justement, ouais, enfin, c'est la réflexion a commencé à partir de cette rencontre-là, de référencement du son, de, et en fait, je connaissais rien avant d'avoir rencontré ce gars et d'avoir commencé à me renseigner tant sur son parcours que sur la French Touch globalement, en fait, puisque j'étais qu'un touriste qui connaissait que Daft Punk ou Justice, pour caricaturer.
De belles références.
Oui, c'est bien, mais ça suffit pas pour prétendre à faire de la musique électronique. Faut creuser un peu plus le sujet, monsieur Vauquelin.
Creuser le sillon. Ton cinquième choix pour ce soir, c'est le Breton Bertrand Belin. Le titre, c'est La Nouvelle. Il est extrait de Tambour Vision. C'est sorti en 2022. Je te laisse me présenter là aussi, Léo.
Je connaissais Bertrand Belin depuis quelques temps, certes, mais j'ai trouvé la production de cet album-là hyper intimiste, certes, mais hyper bien fait, en fait, parce que c'est sur la retenue, c'est des sons qui me parlent forcément en termes de boîte à rythme et de synthétiseur. Mais enfin voilà, c'était quand j'ai écouté ce dernier album, c'était vraiment une belle claque, et donc je vous invite à écouter La Nouvelle de Bertrand Belin.
L'orienté Bertrand Belin avec le titre, la nouvelle extrait de Tambour Vision, sorti en 2022, cinquième choix de mon invité de ce soir, Léo Vauquelin. Alors, il y a une grande importance accordée au texte dans le travail de Bertrand Belin. C'est le texte ou la musique qui arrive en premier pour l'écriture d'une chanson chez Léo Vauquelin ?
C'est tout le temps, ouais. J'ai hésité à dire tout le temps, mais je crois que c'est vraiment tout le temps. la musique d'abord. Et la musique qui dirige le... l'émotion du morceau, quoi, et les mots, par ailleurs. Ouais, non. Donc d'abord la musique, et ensuite, il y a un premier yaourt qui se pose, et généralement, il y a quelques mots de ce yaourt qui se retrouvent dans la chanson finale.
Et quelle tonalité tu voulais donner à Canal 1 au niveau musical? On a quand même déjà pas mal parlé depuis le début de l'émission.
Bah, pour dire un gros mot, c'est que il y a eu un petit déclic pour ma part pendant le Covid.
Oh là là, oui, on va en parler après du Covid.
J'adore ce
parce
mot.
Que j'ai toujours une question là-dessus.
Histoire de rappeler aux gens, parce qu'on oublie trop souvent. Mais oui, du coup, ça s'est croisé avec cette volonté de sortir un peu de la chanson française traditionnelle. Et du coup, j'ai pensé qu'en sortant de cette période-là, les gens auraient envie de se lâcher un peu plus. Et, de... bon, enfin, et puis même moi-même, je n'avais pas envie de proposer quelque chose qui donne le cafard. Et donc du coup, voilà, ouais, Canal 1, c'est une invitation au lâcher-prise. Et puis, enfin, en tout cas, des rythmes soutenus. On peut aborder des choses un peu noires, mais de manière lancinante.
On fait passer la pilule avec des rythmes dansants.
C'est ça.
Il s'est passé comment l'enregistrement de ce disque? C'était où et comment ça s'est passé?
Alors, bah, y a eu un gros... La première phase, c'est chez moi, tout seul. Et ensuite, il y a la magie, les doigts magiques et les oreilles magiques d'Arthur Guégan qui interviennent. Donc Arthur, quoi, il a largement contribué à ce qu'est le résultat final de ce disque. Mais donc il est intervenu notamment sur des réflexions de « Bon, ce synthé-là, t'es sûr de vouloir le garder ? Ou est-ce que ce synthé basse est assez épais ? Il faudrait pas lui en mettre un copain avec lui pour que ça soit un peu plus dansant ?» Donc voilà, et puis son travail de mixage et de référencement, il m'a aidé grandement dans la production de ce disque, c'est sûr. Ouais.
Et oui, là voilà la question sur la crise sanitaire, puisque tu l'as évoqué, et que je pose quasiment à tous les artistes et à tous les gens qui sont dans un processus créatif. La crise sanitaire qu'on a traversée et dont on n'est pas complètement sorti d'ailleurs, a eu quel impact sur ta manière de travailler, sur ta manière de voir le monde aussi?
Voir le monde, je suis relativement jeune, j'ai pris une belle claque là-dessus sur la manière dont ça a été géré, ça c'est sûr.
C'est une situation assez inédite quand même, une pandémie.
Ouais, et puis l'estime qu'on porte aux humains, je trouve qu'il y a eu quelques révélations à ce moment-là. Mais bref, passons. En tout cas, sur la pratique artistique, ça a fluidifié beaucoup de choses sur le fait que oui, il faut... Pour moi, du coup, les concerts maintenant, c'est faire oublier aux gens toute cette morosité ambiante, en tout cas. Et donc, ouais, non, j'ai appris beaucoup de choses, même si ça nous a fait passer par un stade un petit peu noir, un peu film noir même.
Titre avec lequel on se quittera en fin d'émission. En attendant, on va entendre un autre représentant de ce qu'on pourrait appeler aussi la nouvelle scène française. Il s'appelle Flavien Berger. Le titre que tu as choisi, c'est Pamplemousse. Il est extrait de Contretemps, sorti en 2018.
Album top 3, je crois, de ma vie. Parce que Flavien Berger est... certes fait de la musique électronique, mais je trouve ça hyper organique. Il y a toujours des choses qui se passent, surtout si on écoute au casque ou dans de bonnes conditions tout court en fait. Mais oui, c'est de la musique qui reste très organique et très très pure, très très pure, très très frontale. Enfin, je trouve ça sans filtre en tout cas, et je trouve que c'est une belle interprétation de cette nouvelle scène de la variété française.
c'est celle que tu portais au karaoké. Quand tu te demandais ce que je devenais, je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer. Je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens. Je me souviens. Que tu portais au karaoké. Quand tu te demandais ce que je devenais, je ne savais pas qu'on allait s'entrechoquer. Je ne chantais que des onomatopées pour faire américain, mais tu te moquais. Je me souviens. Je me souviens.
Flavien Berger, Pamplemousse, extrait de Contretemps. Tu me disais, un des trois plus beaux albums de ta vie.
Ouais.
Alors, tu as travaillé au Cube. Quel regard tu portes sur la scène locale, en commençant par les artistes d'Evreux, Agathe, bien sûr, Métro Verlaine, MC Agora, Adélis?
Non, bah oui, on a de la chance d'avoir tout. Et puis en plus, avec les noms que tu viens de citer, des esthétiques différentes.
Très différentes, ouais, je voulais revenir là-dessus,
ils
Agathe.
Ils le font hyper bien, tous en fait. Ouais, et puis en parallèle de ça, j'ai toujours été admiratif et intéressé par la scène locale. Donc ouais, non, j'apprécie beaucoup ces groupes-là. Et puis même du côté de Bernay, ça se bouge un petit peu maintenant. On sait qu'on est dans un territoire un peu compliqué.
Ouais, ça, on va dire, l'Eure, c'est un vieux département rural. Ouais. Enfin,
Au niveau du renouvellement des artistes, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc, au contraire, il faut encore plus soutenir les copains, les voisins qui font de la musique.
Surtout quand ils la font aussi bien.
Ouais, carrément, ouais.
Et alors, tu collabores avec les musiciens d'ici, notamment ceux que je viens de citer à l'instant?
Agathe, forcément, ouais, puisque je l'accompagne sur scène. Et après, je collabore sous une autre entité qui est Carousel, du coup, Carousel Records. Ouais.
Tu peux nous parler, là?
Ouais, j'en parle rapidement. C'est une association qui fait des captations vidéo live, mais aussi de l'enregistrement de CD, de n'importe quoi, de tout ce que les artistes ont besoin à des tarifs associatifs. C'est ça la volonté de cet asso. Et donc du coup, oui, on a déjà eu la chance d'accueillir Métro Verlaine et Agathe. Et puis MC Agora, c'était en discussion. Et Adélis, elle ne le sait pas encore, mais on l'aimerait bien dans notre saison en cours.
Si elle nous écoute, Adélis. Hein.
Alors, elle a déjà tourné son clip Ottawa, là, qui a été tourné chez nous aussi, à Carousel, du coup.
Et alors, t'es très productif, hein, comme Ty Segall, parce que quand t'avais dit que t'étais chanteur-batteur comme Phil Collins, je sais pas pourquoi j'avais du mal à y croire, lui aussi est batteur-chanteur. Combien de morceaux as-tu écrit? C'est un staccanoviste de la production, Ty Segall. Combien de morceaux t'as écrit et composé avant d'en choisir 6 pour Canada 1?
Oh, la question qui tue. Je sais pas, je pense qu'il y en a. Et puis en fait, il y en a même sur. On va potentiellement parler du futur après, mais il doit y en avoir 20, 25 à chaque phase où je me dis, bon, Léo, faut que tu sortes un truc. Donc oui, je pense qu'il y a 20, on va dire une vingtaine de morceaux où il y a une ossature que j'estime à peu près solide. Et voilà. J'ai choisi ces 6 dans une vingtaine, on va dire.
Et on poursuit avec La Méditerranée, extrait de ton album Canal 1. Tu me disais qu'il va bientôt être clippé.
Oh oui, il semblerait qu'il y ait un clip qui sort le 6-12 sur les internets.
Alors que je déambule, je suis comme attrapé par cette femme qui ondule, c'est au vert à noirer. Puis arrivent les effluves de son cou parfumé. Ça m'appelle le rivage, la Méditerranée. En regard abyssal, j'ai plongé tout entier dans mes poches du sable.
Ce titre, c'est celui de mon invité, Léo Vauquelin. Il est extrait de Canal 1, ça s'appelle Méditerranée. Donc, titre, tu me le disais, mon cher Léo, qui sera bientôt visible en... Enfin, qu'on en pourra trouver en
vidéo-cassette sur YouTube, ouais.
Alors, donc, du coup, tu me parlais du nombre de titres que tu as écrit et composé pour Canal 1. Le prochain EP, donc mini-album, est déjà en gestation. Est-ce qu'il marquera une rupture ou en tout cas un changement de cap avec Canal 1
Alors, je pense que... Non, une rupture, c'est un...
Oui, le mot est un peu fort.
Ouais, c'est un
transition.
En tout cas, oui, voilà. Je pense qu'il sera plus homogène encore que ce premier, puisqu'il y a sur Canal 1, il y a quand même une petite phase, des petits restes de chansons françaises, je dirais, avec Quand tu t'élances et Soyeuse, par exemple. Et donc, du coup, oui, je pense que le prochain sera plus homogène dans le sens où ça sera un mélange, j'allais dire savant mélange, mais le mec est mégalo, quoi. Ça sera un mélange entre film noir et Ne pas rester la Méditerranée, quoi. Donc, le côté disco et aussi le côté un peu plus moderne, mais très noir. Voilà pour ce prochain EP.
On va clore cette émission avec un dernier extrait de Canal 1 qui s'appelle Film Noir. L'époque qu'on traverse n'est pas folichonne. Est-ce qu'il reste des raisons d'y croire, d'être positif aujourd'hui, en 2023 ?
On est un peu obligé. Je crois que c'est la nature humaine qui nous force à être soit naïf ou soit nous force à y croire. Mais oui, il faut pas cesser d'y croire. Puisqu'il y a encore des choses à faire, même si on s'engage vers des temps plus compliqués. Mais tant qu'on est conscient que les temps vont être plus compliqués, on peut arriver à faire de belles choses toujours.
Et alors, sur quel réseau, quel site on peut suivre tes actus écouter l'album Canal 1 ?
Alors, sur toutes les plateformes qu'on connaît forcément, il y aura des exemplaires physiques qui seront disponibles pendant les concerts, mais aussi si vous m'envoyez un gentil message, uniquement les gentils messages sur les réseaux sociaux. Et puis sur YouTube, je vous invite vraiment à aller voir les clips, puisque ça adresse vraiment l'esthétique du projet et le personnage que j'interpréterai aussi sur scène, forcément.
Il y a quelques dates à venir pour défendre ce projet sur scène, bientôt, dans les semaines, ouais, les mois qui viennent.
Alors, c'est à partir de 2024, mais oui, je jouerai chez vous à Évreux, forcément. Et après, je dévoile pas les dates précises, puisque j'essaye de faire une chouette liste avant de rendre ça public, mais oui. Évreux, quand au moins la Normandie, je pense à vous, n'ayez pas peur.
Je te remercie, il va falloir rendre l'antenne, mon cher Léo, je te remercie d'avoir répondu présent à l'invitation de l'émission Tour de Piste. Merci, je le rappelle, toi. Tu as sorti donc un 6 titres le 20 octobre qui s'appelle Canal 1, et je te remercie d'autant plus que tu es assez malade depuis depuis aujourd'hui ou hier, et que tu es sorti du lit pour venir jusqu'au studio. On se quitte avec Film Noir, dernier extrait de ton album Canal 1. On se retrouve nous dans 15 jours à 20h sur les ondes de Principe Actif. Vous pouvez retrouver actualité et podcast sur la page de l'émission, elle s'appelle Tour de Piste, une émission musicale sur Principe Actif, et retrouver les podcasts évidemment sur le site de la radio www.principeactif.net. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. À dans 15 jours, au revoir.
Salut Laurent.
Je me fais des films noirs, noirs, dans la tête de ce trottoir qui mène du haut de la fenêtre un peu d'espoir. Lorsque la télévision s'arrête matin au soir, des enfants malhonnête, ils veulent nous qu'on regarde et qu'on achète nos armes à tout et tire leur balette dans nos bouches pour nourrir nos diabètes. Mais bout à bout, nous ne sommes plus que des insectes qui courent les rues, mais ne parlent plus le même dialecte. Nous hâte la vue pour les choses les plus belles de nature. Je crois que force là nous infecte, elle reprend vie étrangement lorsqu'on s'arrête. Je me fais des films noirs, noirs, dans la tête ces derniers soirs.